Vous écoutez France Culture, bon réveil à tous, c'est l'heure des enjeux à 6h45, donc l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Et bonjour Jacques Mignet, bonjour à tous.
Et au sommaire aujourd'hui, la défense européenne.
Et oui, nous avons les mêmes préoccupations. Forum pour la paix hier à Paris et éloge du multilatéralisme sans le président Donald Trump. En froid avec Emmanuel Macron, le président américain l'accusait vendredi de promouvoir une armée européenne face aux États-Unis et à l'OTAN. Bonjour Jean-Pierre Molny.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec vous. Vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS. Alors, je recite les propos d'Emmanuel Macron sur Europe 1 mardi dernier. On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne. De quoi est-ce qu'il s'agissait? Un problème de communication, comme semblait l'avoir dit l'Élysée, ou de déclarations peut-être un peu plus calculées?
Oh, je pense que la déclaration est calculée. Emmanuel Macron... c'est toujours, je pense, à peu près ce qu'il dit. Non, ce qui se passe sur la question de l'Europe de la défense, c'est que on manque de mythes mobilisateurs sur cette question-là, on manque de communication, et il est évident que le terme armée européenne, on l'a bien vu d'ailleurs, est quelque chose qui fait bouger, qui représente quelque chose. Or, il se trouve qu'on a à l'heure actuelle un certain nombre d'initiatives pour que les Européens fassent plus collectivement pour leur défense. Je pense que le vocable « armée européenne » est assez justifié pour regrouper toutes ces initiatives, même si naturellement, à l'arrivée, on n'aura pas une véritable armée européenne avec des soldats combattant dans les mêmes unités.
Alors on va voir ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une appellation qui passe beaucoup mieux en français qu'en allemand, par exemple. Les Allemands n'utilisent pas cette expression, même si on peut la traduire. Vous avez suggéré, qu'il y avait plusieurs initiatives. C'est vrai que c'était une semaine dernière importante pour la défense européenne et pour la France, notamment avec ce qu'on appelle l'initiative européenne d'intervention.
Alors, il y a plusieurs initiatives qui sont en cours. Il y a l'initiative européenne d'intervention, effectivement, dont Emmanuel Macron est à l'origine, et qui n'est pas dans le cadre de l'Union européenne, d'ailleurs, proprement dit, et qui vise à créer une culture stratégique entre pays européens. En fait, c'est les inciter à participer aux opérations militaires futures de l'Union européenne plus que nous ne le font actuellement. Et puis vous avez d'autres initiatives comme la coopération structurée permanente ou le Fonds européen de défense qui permettra de financer de la défense et qui là vise tout simplement à ce que les Européens définissent leur politique de défense beaucoup plus collectivement qu'ils ne l'ont fait dans le passé.
Oui, un fonds de 13 milliards d'euros sur 7 ans, je crois. Encore une fois, concernant cette initiative européenne d'intervention, mais effectivement promue par la France, c'était la semaine dernière, donc l'entrée de la Finlande, qui est le 10e pays à prendre part à cette initiative. En quoi est-ce que ça diffère, même à terme, d'une armée supranationale, sachant que pour l'instant, Emmanuel Macron a dit qu'il précisait de coordination, mais qu'à la Sorbonne l'année dernière, il parlait quand même à long terme d'une force commune d'intervention, d'un budget de la défense commun, d'une doctrine commune pour agir.
Ben, je pense que ce qu'a bien compris Emmanuel Macron, c'est qu'on ne va pas décider les pays européens du jour au lendemain à participer à des opérations militaires. Il faut déjà qu'ils aient une vision commune de leurs intérêts de sécurité. Il faut qu'ils connaissent très bien les situations sur le terrain, ce qui veut dire qu'il faut partager les informations de renseignement sur les crises potentielles. Et puis, il faut commencer à les préparer à qu'est-ce que c'est qu'une opération militaire montée en commun, ce qui n'existe pas pour le moment au niveau de l'Union européenne. Ce qu'on appelle faire de la planification à froid. Donc c'est véritablement au départ créer donc ce qui s'appelle cette culture stratégique pour que le jour venu, les pays se décident à intervenir ensemble.
Cette idée d'une culture stratégique commune, ouais, comme il l'avait appelé. Alors pour revenir aux déclarations quand même, puisque elles ont mené à cet accrochage avec Donald Trump ce week-end, alors l'Élysée s'est défendue de vouloir mener des initiatives européennes face à l'OTAN et face aux États-Unis, mais Emmanuel Macron disait quand même la semaine dernière, l'UE ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls États-Unis. Il y avait bien un message face à Donald Trump et à son discours sur le financement de l'OTAN.
Bah, effectivement, il y a les deux messages parallèlement. Alors, ça peut apparaître contradictoire, et en réalité, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que quand les pays européens augmentent leur budget de défense et définissent leur politique de défense beaucoup plus collectivement, en réalité, ils viennent renforcer l'OTAN, puisque l'OTAN, il n'y a pas d'unité de l'OTAN, ce sont des unités nationales. Et puis, en même temps, avec ce concept d'armée européenne, on a également l'idée selon laquelle on ne pourra peut-être pas compter toujours éternellement sur les Américains, et que la politique et les propos de Donald Trump n'incitent pas véritablement les Européens à avoir une confiance totale dans les États-Unis et dans Donald Trump. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'est pas le premier à avoir eu ce langage, la première dirigeante européenne à l'avoir eu, c'est Angela Merkel en Allemagne, et ça datait de début 2017.
Donc pour être assez clair, il s'agit de quoi ? Il s'agirait d'arriver à négocier en quelque sorte, via ces déclarations, à rééquilibrer le fardeau de la défense OTAN, hein, le financement et se désengager un peu pour les Européens, ou alors qu'il y a des doutes nouveaux sur la capacité américaine à garantir la paix, c'est-à-dire le retrait de l'accord nucléaire avec la Russie là récemment ?
Quand on augmente nos dépenses militaires et qu'on fait plus pour notre défense, on rééquilibre de fait le fardeau de l'OTAN, puisque ça veut dire que les Européens prennent plus à leur charge leur sécurité, ce qui est le cas actuellement. Vous parliez du traité sur les forces nucléaires.
Oui, sur la limitation des armes nucléaires. Oui.
C'est effectivement un bon exemple du doute qu'on peut avoir avec les États-Unis, parce que le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, c'est certes un traité qui a été signé entre les États-Unis et feu l'Union soviétique, mais c'est un traité qui concerne la défense de l'Europe. Or, le retrait unilatéral des États-Unis du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, ça a été fait sans qu'à aucun moment les Européens ont été consultés. Donc ça pose véritablement un oui. problème, puisque ça veut dire qu'on définit leur sécurité sur leur dos. Donc effectivement, à un moment, il y a véritablement un doute par rapport à la politique des États-Unis oui. et tout simplement sur le fait qu'ils partagent véritablement les mêmes intérêts de sécurité que les intérêts des Européens.
Et en un sens, est-ce que cette affaire, elle n'est pas révélatrice justement, on pourrait dire, des différences de visée stratégique ? Parce que si les États-Unis se sont retirés ou ont mis la pression sur ce traité de limitation des armements nucléaires à portée intermédiaire, c'est parce que ils avancent que la Russie elle-même met en place des nouveaux missiles, légèrement en dehors du cadre de ces traités.
C'est vrai qu'effectivement, on savait que la Russie, sur ce traité, comme sur le traité sur les forces conventionnelles en Europe, effectivement, sont, on va dire, plutôt borderline quand on respecte ces traités. Mais la nécessité, c'était la nécessité d'un dialogue pour rétablir un système de sécurité pan-européen. C'est le multilatéralisme pour lequel plaide Emmanuel Macron. Or, le retrait du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, c'est tout ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire une décision unilatérale, et qui finalement rend service aux Russes, puisque maintenant, ils avaient tendance effectivement à ne pas respecter ce traité, maintenant ils n'ont plus aucune raison de respecter ce traité, puisque les Américains en sont sortis.
Ouais, même si Vladimir Poutine, je crois, a dit à RT France hier qu'il souhaitait quand même des négociations. Alors, concernant la défense européenne, là, on a évoqué plusieurs initiatives. Vous avez parlé de planification à froid, mais est-ce que, avec, par exemple, l'échec de l'Agence européenne de défense qui avait eu jusqu'en 2016, on voit qu'il n'y a pas une Europe qui ne peut que se limiter qu'à de la coordination, là, un peu comme le propose l'initiative européenne d'intervention.
Ben justement, je pense qu'on est allé, on est en train d'aller un petit peu plus loin à l'heure actuelle. L'échec de l'agence européenne, enfin l'échec, est-ce qu'on peut parler véritablement des
transformations, disons,
de défense ? Ouais. Bon, déjà c'est une question. Disons simplement que l'agence européenne de défense, elle n'est que le reflet de ce que font les États, puisqu'elle est basée sur la base de l'intergouvernementalité. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, quand même, c'est un déplacement du curseur pour ce qui est des initiatives européennes, de l'Agence européenne de défense vers la Commission européenne, et en fait des structures intergouvernementales vers les structures communautaires. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a une plus grande efficacité et qu'en réalité, aujourd'hui, les États, ils dialoguent avec la Commission européenne, c'est-à-dire avec la structure communautaire, et non pas avec l'Agence européenne de défense. Je pense que dans les années qui viennent, tout ça va se recaler, que toutes ces institutions vont travailler ensemble pour avoir beaucoup plus de définition de la politique de défense dans un cadre collectif. Puisque, en fait, l'idée qui est derrière tout ça, c'est tout simplement de dire, puisqu'on arrive, on est quand même à 6 mois maintenant des élections européennes, c'est de dire aux Européens, regardez, l'Europe, elle vous protège.
Oui, et de...
c'est quand même l'élément essentiel. Oui.
Tenir un discours et donner des preuves en sens, sans doute dans les années futures, à surveiller les achats d'équipements communs, on aura l'occasion d'en reparler, tout un sujet. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Meulny pour aujourd'hui, directeur adjoint de l'IRIS. Merci.